Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Cette semaine, nous recevons un des plus grands historiens contemporains en la personne de Christopher Clark. Professeur à l'université de Cambridge, il est l'auteur d'un maître livre traduit dans le monde entier. Son titre, Les Somnambules, livre dans lequel il analyse le processus qui a mené à la Première Guerre mondiale. Nous allons en parler avec lui. Mais Christopher Clark vient aussi de publier 1848, Le printemps des peuples, se battre pour un monde nouveau, un livre publié chez Flammarion, comme le précédent. À l'école, écrit-il, quand j'ai découvert les révolutions de 1848, elles me paraissaient aussi vieilles que les pyramides d'Égypte. Leur complexité les apparentait à un grimoire futile à mille lieues du type de récit qui ravit les lectrices et les lecteurs modernes. Les choses ont bien changé depuis. Christopher Clark a surmonté la difficulté puisqu'il nous propose aujourd'hui un gros livre de quelque 800 pages qui explique cette période capitale qui a encore des résonances aujourd'hui. C'est en cela qu'elle nous intéresse aussi. Voici donc un nouveau numéro du magazine Idée, un magazine que vous pouvez aussi retrouver sur le site de la radio, l'application RFI Pure Radio est votre moteur de recherche préféré. Bonjour Christopher Clark.
Bonjour Monsieur Deldic.
Je suis très heureux de vous accueillir. C'est pas tous les jours qu'on reçoit un historien de renom à la notoriété mondiale depuis Les Somnambules.
Merci, je suis très content d'être ici.
Et Les Somnambules qui constituent toujours une référence quand on parle de la Première Guerre mondiale et quand on évoque l'enchaînement qui mène à une guerre, on y reviendra tout à l'heure. Et il y a donc 1848, cette période que l'on connaît sans connaître finalement. Elle est un peu brumeuse dans notre esprit.
Absolument, et surtout en Australie où je suis né et en Angleterre où on ne pense pas beaucoup à cette cascade de tumultes et révolutions continentales en Europe. Mais en fait, elles étaient importantes et ça vaut la peine d'y réfléchir.
Alors vous écrivez au tout début du livre, Christopher Clark, « Par leur intensité et leur étendue géographique, les révolutions de 1848 sont uniques dans l'histoire européenne, du moins. » Ni la Révolution française de 1789, ni la Révolution de juillet en 1830, ni la Commune de Paris en 1871, ni les révolutions russes de 1905 et 1917 n'ont déclenché une cascade de répercussions comparables. 1989 semble être un meilleur point de comparaison. C'est dire leur importance, en fait, leur singularité.
Absolument. Et en fait, c'est la seule... une révolution véritablement européenne qui n'ait jamais existé. Il n'y a jamais eu une cascade continentale comme ça. C'est la seule fois que ça s'est passé.
Et pourquoi avez-vous voulu vous intéresser à cette période singulièrement après celle que vous avez étudiée dans le détail, c'est-à-dire 1914?
Oui, c'est parce que j'ai... Alors d'abord, naturellement, j'avais l'impression que ça ne valait pas la peine d'y réfléchir parce que je me souviens très clairement comme le professeur au lycée nous a dit « Alors vous voyez, ces révolutions étaient compliquées et elles ont échoué. » Et je me souviens, comme je me suis dit en cette époque-là, que à ce temps-là, que c'est une combinaison peu attrayante, l'échec et la complexité. Et je me suis décidé de me jamais occuper de ces événements. Mais quelque chose a changé. D'abord, c'est que j'ai commencé à étudier le siècle 19e siècle, je veux dire, et qui se rapproche de ce siècle, remarque très tôt que ces révolutions sont le cœur battant au cœur de ce siècle, que tout est changé après ces tumultes, que le monde n'est plus ce qu'il était après les révolutions. Et ça m'a intéressé. Et puis j'ai remarqué que beaucoup des constitutions qui existent dans l'Europe contemporaine, la constitution hollandaise par exemple, la constitution danoise, la constitution suisse, viennent de cette, ils remontent à cette époque-là. Ils ont été écrits, ils ont été établis comme fruits, comme produits de ces révolutions. Alors ils ont beaucoup changé. C'est ça qui m'a intéressé.
Alors vous interrogez, vous, dans le livre, vous vous demandez pourquoi faire l'effort de réfléchir aujourd'hui à 1848, parce que ces révolutions ont encore un sens aujourd'hui, une résonance.
Absolument, ils ont une résonance. Partiellement, c'est parce qu'ils ont posé des questions qu'on n'a pas encore résolues.
Auxquelles on n'a pas répondu.
Par exemple, la question s'il y a un droit au travail, ou le problème des inégalités sociales. C'est intéressant. Le problème clé des révolutions 48, c'était la question sociale. Et on voulait dire avec la question sociale tout un faisceau de questions disparates sur les conditions dans les fabriques, l'appauvrissement des travailleurs, la valeur tombante du travail, etc. Et les habitations insalubres, les choses comme ça. Et de nos jours, on pose de nouveau exactement ces questions. Si on pense par exemple à Thomas Piketty, à son travail sur le capitalisme, Thomas Piketty, il a posé exactement la question, est-ce que notre système économique produit et aggrave l'inégalité sociale? Et c'est exactement cette question que Louis Blanc a posée 1840 et pendant les années 40, dans un best-seller de cette époque-là, l'organisation du travail, il a posé exactement cette question. Est-ce que notre système moderne industriel produit la pauvreté, appauvrit, immisère les travailleurs?
Christopher Clark, il faut préciser, pour commencer notre conversation sur cette année 1848, qu'elle concerne beaucoup de pays d'Europe.
Absolument. Ça commence même pas à Paris. On a toujours dit que c'est Paris qui est, comment dit-on ça? Paris sneezes.
Éternue.
Paris éternue et toute l'Europe prend la grippe.
Sans rhume.
Oui, sans rhume, exactement. Mais c'était pas exactement comme ça parce que la cascade des tumultes a commencé effectivement en Suisse. Et il y avait une guerre civile, 47, entre les cantons libéraux et les cantons conservateurs. Et les libéraux ont gagné, et ça a inspiré naturellement les mouvements radicaux et libéraux partout en Europe. Et puis, des révolutions ont éclaté en Sicile, à Palerme, et puis à Naples, et en janvier 1848. Et après, en février, naturellement, la révolution en France, qui est extrêmement importante parce qu'elle a un pouvoir de signalisation qui est extrêmement qui est décisif, mais ça n'a pas commencé à Paris, c'était déjà en mouvement quand Paris a vécu sa révolution.
Alors Christopher Clark, votre livre nous fait voyager entre Paris donc et Rome aussi, Berlin,
à Rome, à Berlin, à Vienne, Prague, à Valachie, Vienne, à Moldavie, exactement, aux îles Ioniennes même, qui étaient sous la couronne d'Angleterre en cette époque. Alors, partout sur le continent, on voit du tumulte analogue.
Alors, ce qui est un des aspects passionnants de votre énorme travail, Christopher Clark, c'est que c'est aussi une interrogation sur les raisons qui font qu'une révolution commence.
Oui.
Parce que là, ce sont des révolutions qui ont commencé dans différents pays, mais à chaque fois avec des cas particuliers.
Oui, et c'est, pour moi, c'était la chose la plus surprenante et la plus frappante, que ces révolutions n'ont pas été planifiées, ils n'ont été pas faites par les révolutionnaires. C'est l'inverse, c'est les révolutions qui ont façonné les révolutionnaires, pas les révolutionnaires qui ont fait les révolutions. Les révolutions ont été générées par une sorte de désinhibition générale de la société. C'était des tumultes, des soulèvements pan-sociétaux. Et les révolutionnaires, les soi-nommés, soi-disant révolutionnaires, étaient aussi surpris par ces soulèvements que tout le monde. Et les révolutionnaires, effectivement, sont les leaders qui émergent de ce moment de tumulte et qui héritent la situation créée par le soulèvement.
Alors, on a beaucoup parlé de ces années 1848, lorsqu'il y a eu ce qu'on a appelé les printemps arabes. Parce que là aussi, il y avait une succession, en peu de temps, de révolutions toutes différentes, mais révolutions au pluriel.
Oui, il y a vraiment beaucoup de caractéristiques analogues. C'est la propagation rapide des tumultes d'une ville à la prochaine, exactement, à une
comme
autre.
Comme une traînée de poudre, en
fait. Absolument, exactement. Ou comme un incendie dans une forêt ou quelque chose comme ça. Et puis, il y a naturellement le rôle extrêmement important des médias, des communications, qui, dans tous les deux cas, l'imitation, le fait que on entend les mêmes revendications, les mêmes demandes partout dans les endroits différents, mais il y a aussi de grandes différences qui expliquent aussi pourquoi les révolutions dans le monde arabe sont restées sans grandes conséquences. Et c'est peut-être qu'il y avait 1848 relation plus organique entre les mouvements libéraux et les mouvements révolutionnaires, disons, et les agences gouvernementales que dans les pays arabes de nos jours. Et ça voulait dire que les gens au gouvernement ont très vite reconnu qu'il fallait absorber le choc de la révolution et qu'il n'était plus possible de nier et d'annuler la révolution. Il fallait accepter la révolution comme fait accompli et absorber les revendications les plus importantes dans la pratique, disons, du gouvernement. Et on voit cette récalibration de la pratique exactement gouvernementale partout dans les pays européens après les révolutions, après les soulèvements de 48, inclus en France. Mais dans le cas arabe, c'est autre chose. Il y a une triangulation qui a été très bien analysée par mon collègue à Cambridge, Hazem Kandil, qui parle de l'Égypte spécialement. Une triangulation entre les organes de sûreté, l'armée et la société civile. Et il n'y a pas un rapprochement entre n'est plus possible. Et c'est à cause de ça que la société civile ne génère pas des organes qui sont capables de collaborer avec, par exemple, avec l'armée ou avec les agences policières.
Nous, dont la lampe le matin au clairon du coq se rallume, nous tous qu'un salaire incertain ramène avant l'aube à l'enclume, nous qui des bras, des pieds, des mains, de tout le corps luttons sans cesse, sans abriter nos lendemains contre le froid de la vieillesse. Sans relâche tendu aux flots jaloux, au sol avare, ravissent leur trésor perdu, ce qui nourrit et ce qui part. Perles, diamants et métaux, fruits du coteau, grains de la plaine, pauvres moutons, quel bon manteau ils se tissent avec notre laine. Tirons-nous des labeurs qui courbent nos maigres échines? Où vont les flots de nos sueurs? Nous ne sommes que des machines. Nos babelles montent jusqu'au ciel, la terre nous doit ses merveilles. Dès qu'elles ont fini le miel, le maître chasse les abeilles. mal vêtu, logé dans des trous, sous les combles et dans les décombres. Nous vivons avec les hiboux et les larrons amis des ombres. Cependant notre sang vermeil coule impétueux dans nos veines. Nous nous plairions au grand soleil et sous les rameaux verts des chênes. Chaque fois que par torrent, notre sang coule sur le monde.
Suite de ce numéro d'idées en compagnie de Christopher Clark qui vient d'écrire Le printemps des peuples, se battre pour un monde nouveau et 1848 est au cœur de notre conversation. Il est l'auteur aussi, je le rappelle, des Somnambules, l'été 1914. Comment l'Europe a marché vers la guerre. Alors ce qu'il faut noter, Christopher Clark, c'est que ces révolutions de 1848 ont éclaté dans des pays tous différents les uns les autres. Aucun rapport entre Paris, Vienne, siège de l'Empire d'Autriche-Hongrie, ou bien encore l'Allemagne, qui n'était pas encore l'Allemagne d'aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, mais les élites européennes étaient extrêmement européenne, plus européenne en cette époque-là que les élites d'aujourd'hui.
C'est important de souligner.
C'est très important de souligner. Si on prend par exemple l'exemple de Cavour, de l'homme d'État piémontais, plus tard italien, il a été formé par son éducation à Piémont, à Turin, et puis plus tard en Suisse, et puis à Paris. Alors il pouvait parler très bien le français, très bien l'anglais. Il a écrit des essais brillants, par exemple sur le problème agraire en Irlande. Alors ça, c'était un homme qui savait beaucoup sur les pays de l'Europe, et il n'est pas le seul. On voit dans les élites une synchronisation, une simultanéité dans leur connaissance, dans leur conscience, très frappante. Alors je crois que c'est à cause de ces réseaux transnationaux qu'un tumulte comme ça est possible.
Oui, parce qu'il faut rappeler que les passeports n'existaient pas encore.
Non,
qu'on pouvait circuler librement.
Absolument, absolument. Il y a une circulation aussi des savants qui est vraiment frappant et impressionnant.
Ah, vous soulignez aussi, Christopher Clark, dans ce livre, que, comme souvent, ces révolutions ont fait émerger des acteurs, des personnalités. Vous citez par exemple Garibaldi, toujours pour l'Italie. Et vous parlez aussi de Marie Dagout. Il faudrait dire un mot de cette femme importante.
Oui. Marie Dagout est fascinante parce qu'elle écrit naturellement sous un pseudonyme masculin, Daniel Stern. Mais c'est l'autrice de l'histoire de ces révolutions, de la meilleure histoire de ces révolutions qu'aucun contemporain a écrit. N'est écrit exactement. Parce que et c'est une œuvre grandiose en trois tomes où elle analyse avec beaucoup d'intelligence et avec une méthode très très rigoureuse les événements à Paris, en France. Alors, c'est une étude sur la Révolution française de 48, mais c'est la meilleure étude qui existe de ce temps-là par une contemporaine. Mieux que les choses que Louis Blanc et Lamartine ont écrit, n'est-ce pas? Et puis, alors, c'est une femme fascinante. Et c'est pas la seule. Il y a aussi des autres femmes qui ont livré des témoins extrêmement intéressants. Si on pense, par exemple, de Cristina de Belgioioso, une aristocrate lombarde qui a écrit des études brillantes sur la révolution à Milan, ou à Margaret Fuller, la journaliste féministe américaine qui était à Rome et qui a écrit des témoins passionnants sur les événements romains. Alors, je crois que c'est peut-être à cause du fait que les femmes étaient exclues des centres de d'action, du pouvoir, exactement, dans la Révolution. Par exemple, c'était pas permis pour eux de voter, ils pouvaient pas faire partie des parlements, ils pouvaient s'asseoir dans les galeries, mais c'était pas permis de devenir un député. Et puis, c'est à cause de cette exclusion a créé une certaine distance, mais cette distance avait peut-être des avantages intellectuels pour celles qui ont essayé de comprendre ces révolutions et d'écrire quelque chose là-dessus.
En tout cas, Christopher Clark, vous leur rendez hommage dans ce livre en étudiant leur rapport, tout ce qu'elles ont écrit. À propos de ces révolutions, donc, on ne les quitte pas, 1848, est-ce qu'elles ont fait avancer la démocratie partout où elles se sont produites? En France, ce n'est pas le cas, parce qu'après 1848, non. Il y a eu le coup d'État de 1851, le coup d'État de Napoléon
non,
III.
Non, exactement. Ça, le problème, c'est que... Une caractéristique très importante de ces révolutions et peut-être une de leurs spécificités, c'est la prépondérance des idées et des revendications libérales. Mais les libérales du 19e siècle n'étaient pas des démocrates. Ils n'étaient pas pour la démocratie. Ils étaient pour un élargissement du suffrage, naturellement, et censitaire. Et puis, mais ils ne voulaient pas le suffrage universel.
Donc, il faut rappeler que le suffrage censitaire, c'est un suffrage qui réserve le vote à ceux qui ont les moyens, une aisance sociale dans la société. Et ce suffrage censitaire s'oppose au suffrage universel.
Exactement. Et c'est à cause de ça, on peut dire même que les révolutions ont même peut-être attardé un peu l'adoption de la démocratie, parce qu'ils ont consolidé un régime libéral et plutôt censitaire, ouvert, pluraliste, parlementaire, représentatif, mais pas démocratique.
Christopher Clark, ces révolutions ont donc été des révolutions essentiellement sociales. Ce sont les inégalités qui les ont déclenchées. Il est difficile de rassembler, vous l'analysez très bien dans le livre, les traits communs à toutes ces révolutions, mais la question sociale, les inégalités, la souffrance au travail était au cœur de ces mouvements.
Absolument, et sans la souffrance sociale, sans la détresse sociale, c'est impossible de comprendre pourquoi ces révolutions éclatent comme ils le font. Au même temps, simultanément. Mais la détresse sociale n'est jamais, ne suffit jamais pour expliquer un événement comme ça, parce que les gens sont presque toujours en détresse, mais les révolutions de ce caractère sont extrêmement rares. Alors le lien causal entre la détresse sociale et économique et les révolutions, c'est là, c'est important, mais c'est pas direct. Il faut aussi des mouvements qui focalisent la détresse et la critique, et ça aussi c'est important. Et ça veut dire qu'il faut voir sur un côté les pressions sociales, la révolution sociale, et sur l'autre côté la révolution politique demandée par les élites libérales, par exemple. Et il y a une tension entre ces deux pressions, entre ces deux mouvements, qui ne se jamais résoudra.
Mais il s'agissait quand même, on dirait aujourd'hui, de remettre en cause le capitalisme naissant.
Oui, il y a beaucoup qui vont remettre en cause le capitalisme naissant, les radicaux, naturellement, ceux qui se nomment les socialistes, oui. Mais aussi les conservateurs. Il y a aussi des conservateurs qui disent que le capitalisme a ruiné tout, il a décorporé la société, il a laissé les gens exposés à de nouveaux besoins, de nouvelles formes de précarité, etc. Alors, le capitalisme est sous attaque de la gauche, mais aussi de la droite. Les seuls qui disent que le capitalisme, la dérégulation des économies sont les libérales, en fait, dans le centre de la politique.
Mais en tout cas, Marx s'est intéressé de très près à ces révolutions.
Oui, alors Marx, c'est le témoin le plus doué, le plus intelligent de tous, qui voit presque tout. Il y a des petits points aveugles, oui. Naturellement, oui, mais c'est un témoin extraordinairement clairvoyant des événements de cette époque-là.
Et vous êtes, Christopher Clark, un peu réservé, en revanche, quand il s'agit de parler de l'émancipation.
Ouais.
Vous dites que ces révolutions, finalement, où l'émancipation était au cœur des manifestations, des revendications, eh bien, cette émancipation n'est pas venue, ou quasiment pas.
Non, exactement. L'émancipation, c'était un des mots-clés de cette époque-là. Tout le monde en a parlé. On a dit que l'émancipation, c'est le processus de notre temps. Ce n'est que à travers d'une émancipation générale de la société qu'on va avancer dans l'avenir, etc. On a dit tout cela, on a trouvé les justes mots, mais les faits étaient différents.
Et je vous cite dans le livre, Christopher, vous écrivez « Les révolutionnaires de 1848 se considéraient comme les artisans et les facilitateurs de l'émancipation », et vous mettez « émancipation » entre guillemets. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour ceux qui espéraient obtenir leur émancipation grâce à eux ? Suivre le parcours des Africains réduits en esclavage dans les colonies françaises, des femmes politiquement actives, des juifs et des esclaves tziganes, des territoires roumains, est une façon de mesurer l'étendue et les limites de ce qui a été réalisé en 1848.
Absolument, parce que si on prend par exemple l'exemple des captifs africains sur les îles Caraïbes, il faut constater qu'il y a de l'un côté l'abolition immédiate demandée par Victor Schœlcher à Paris, et de l'autre côté l'émancipation réelle des gens, des personnes. Et l'émancipation, il devient très, très rapidement clair que l'émancipation est un processus extrêmement dur et lent, qui perdure des générations. Et qui est dans quelques sens peut-être pas encore fini, mais et pour les femmes c'est la même chose. On parle beaucoup de l'émancipation, mais on concède rien aux femmes. Et après les révolutions, ils n'ont gagné rien malgré leur engagement, malgré les journaux, les réseaux qu'ils ont créés. Il y a naturellement aussi les effets d'apprentissage pour les femmes qui restent actives, mais en fait ils ne gagnent rien. En tant que davantage de droits, nouveaux droits politiques. Et pour les Juifs, c'est un peu plus compliqué, mais ils gagnent beaucoup d'abord, et puis on leur reprend les acquis, exactement. Et pour moi, l'intéressant, c'est autre chose avec les paysans. L'émancipation des paysans, ça marche et c'est relativement facile. Ça dure aussi parce qu'il faut compenser les seigneurs, etc. Mais ça, c'est relativement facile. Mais les femmes, les gens en esclavage, les tziganes, etc. Les juifs, on remarque que si le genre ou la race est en jeu, la chose devient beaucoup plus difficile. Il y a une résistance dans les sociétés de cette époque-là à un changement radical.
Mes chers amis, trop longtemps nous nous sommes désunis sur les questions essentielles. Nous devons nous unir pour combattre cette bête immonde qu'est l'esclavage. Oui, toujours l'union. Car si vous vous unissez, si vous savez vous relier par les liens de cette immortelle et sublime devise que jusqu'ici la République n'a inscrite encore que sur des drapeaux, mais que nous voudrions voir gravée en lettres indestructibles dans tous les cœurs, liberté, égalité, fraternité, alors le salut du peuple sera certain. Oui, mes amis, l'humanité marche évidemment vers la paix, non vers la guerre. Vers la fraternité, non vers la colère et la haine. Ayons une confiance inébranlable dans la victoire de la raison et de la justice. Que l'intelligence de tous se développe par la liberté de la presse, la liberté de la tribune, la liberté de l'éducation, et ne soyons pas en peine du reste. Mes amis, poussez un cri qui nous touchera plus encore que ces cris de sympathie dont mon cœur est ébranlé. Je ne dirai pas « Vive la République » entourée d'institutions monarchiques, mais « Vive la République » qui aboutira à l'affranchissement du peuple. Vive la République que nos pères ont entrevue quand ils ont dit « Liberté, égalité, fraternité. Au nom des libertés, au nom de la dignité humaine, au nom des droits de l'homme, nulle terre française ne devra plus jamais porter d'esclaves.
Suite de ce numéro d'idées, nous sommes toujours en compagnie de Christopher Clark et nous parlons de son livre 1848, Le printemps des peuples. Est-ce que l'on peut dire, Christopher Clark, que ces révolutions de 1848 marquent en quelque sorte le début d'une histoire européenne, d'un esprit européen? Ou est-ce qu'il s'agit d'avant tout, vous le traitez aussi dans le livre, d'une addition de révolutions nationales?
Oui, c'est ça. C'est une question très intéressante.
Est-ce qu'il y a l'esprit européen qui naît là à ce moment-là ?
Absolument. Et je crois qu'elles expriment un esprit européen. Ça, sans doute, c'est vrai. Mais je ne crois pas qu'elles produisent un esprit européen. Il y a une certaine européanisation des pratiques gouvernementales, c'est juste. Les régimes technocrates qui émergent après les révolutions ont beaucoup, il y a beaucoup de points communs et on voit toujours, les Piémontais voient que s'ils veulent faire une nouvelle loi commerciale ou quelque chose comme ça, ils regardent ce qu'on fait en France et à Prusse et en Bade, Württemberg, etc. Il y a une intensification du transfert dans le domaine politique. Dans ce cas, on peut dire qu'il y a des effets intégratifs. Mais en ce qui regarde en ce qui concerne les idéologies, la conscience des gens, il y a aussi le nationalisme qui divise et qui écarte les sociétés les unes des autres. Et le nationalisme transnational des années 1830 et 1840 est déplacé par un nationalisme plus égoïste, où il faut reconnaître que le rêve d'un Polonais est le cauchemar d'un Prusse, ou le rêve d'un Hongrois est peut-être le cauchemar d'un Roumain. Et cette moment de division... ça divise l'Europe, naturellement. Même si le nationalisme est un phénomène extrêmement transnational et extrêmement connectif et croisé.
Ce qui m'a frappé, Christopher Clark, c'est à la fin du livre, je crois, vous faites une, pas une comparaison, mais vous associez ce qui s'est passé à Washington en janvier 2021 et le coup de force contre le Capitole et ces mouvements de 1848. Pour quelle raison ?
Oui, parce que le 15 mai 1848 à Paris, une foule fâchée a fait irruption dans la constituante, l'Assemblée constituante à Paris, et a annoncé que et le Parlement et le gouvernement étaient déposés, qu'on voulait constituer un nouveau gouvernement pour représenter les besoins, les revendications sociales du peuple. La garde nationale a débarqué et tout cela était très tôt fini. Mais en fait, cette irruption, j'ai pensé à cette irruption quand j'ai vu le chaman QAnon, ce jeune homme maintenant tristement célèbre.
Avec ses plumes,
etc. Exactement. Et sa lance, etc.
Ça s'est terminé en prison pour lui.
Oui, exactement. Ouais. Mais même s'il va peut-être être pardonné, oui. c'est possible oui. maintenant. Oui. Mais je crois que... l'intéressant, dans le cas de 1948, c'était naturellement une irruption de la gauche. Au Capitole, c'était une irruption de la droite. Mais ce qui m'a frappé et m'a intéressé, c'était la résonance formelle entre les deux phénomènes, entre les deux événements.
Est-ce qu'on peut parler, alors là c'est totalement anachronique, de 1848 comme étant un mouvement populiste aussi?
Oui, absolument. Oui, le populisme, on voit des traces du populisme, par exemple les conservateurs après 1848 qui apprennent que le peuple ne veut pas la révolution. La révolution est limitée pour la plus grande partie, elle est limitée aux grandes villes. Et si on se déplace dans le pays et si on parle avec les paysans, on remarque très tôt qu'ils veulent rien à voir avec cette révolution, qu'ils ne le comprennent pas et qu'ils croient aussi que les révolutionnaires ne les comprennent pas. Alors, et dans ce moment-là, il devient possible pour un conservateur de dire que c'est nous les populaires, c'est nous les gens qui sont avec le peuple. Le vrai peuple ne veut pas la révolution. Ça aussi, c'est un mythe. Ça aussi, c'est une sorte d'invention, une histoire qu'on se raconte pour se rassurer. Mais et ça, ce n'est pas permanent, cette alliance entre les conservateurs et les gens dans les régions rurales. Ouais. Mais en fait, c'est une sorte de populisme.
Et il est parce qu'il y a, qui dit révolution dit contre-révolution. Ces mouvements de 1848 sont aussi terminés par des reprises en main du pouvoir, des contre-révolutions.
Absolument. Et la grande différence entre la révolution et la contre-révolution, c'est que personne n'a su qu'il y aurait une révolution. Mais alors personne n'a pu planifier. Mais la contre-révolution, c'est quelque chose qu'on peut planifier. On attend juste que le juste moment arrive et puis on fait le coup, on avance. Et c'était très important pour les contre-révolutions que les armées sont restées loyales à leur roi dans la plupart des pays. C'était pas un problème, la fidélité des armées. Et c'est ça qui manquait aux libéraux, aux radicaux. Ils n'étaient pas capables de projeter la force.
Donc le rapport de force était totalement déséquilibré.
Déséquilibré, exactement. On pourrait dire qu'il y avait un mouvement transnational révolutionnaire, mais l'international était contre-révolutionnaire.
Vous avez une phrase, Christopher Clark, en commençant l'émission, qui m'a intrigué, et vous y revenez évidemment dans le livre. Vous dites que ce ne sont pas les révolutionnaires qui ont fait les révolutions, mais c'est l'inverse.
Oui.
Pourquoi dites-vous ça ?
Parce que il y avait des gens, par exemple, si on pense à Paris, pendant les années 30, il y avait plusieurs insurrections qui ont été planifiées par des soi-disant révolutionnaires qui voulaient faire un nouveau ordre des choses. Mais 48 éclate sans un plan. Il n'y a pas des gens qui planifient 48. Et ça veut dire que les révolutionnaires sont les gens après le fait. Il faut qu'ils émergent comme héritiers de la situation tout à fait ouverte créée par le tumulte, par le soulèvement.
Et vous dites d'ailleurs, dans ces révolutions qui fabriquent les révolutionnaires, Christopher Clark, vous dites que le souvenir, en tout cas en France par exemple, de 1789 était encore là en fait. Les révolutionnaires de 1848 n'ont pas inventé une révolution, ils ont voulu en quelque sorte imiter les révolutions précédentes.
Absolument, et beaucoup des révolutionnaires les plus importants, par exemple si on pense à Louis Blanc, en France, il ne voulait pas une révolution. Il ne voulait pas la violence. Il était absolument contre la violence. Il voulait le changement. Il voulait réforme. C'était un activiste. Mais il n'a pas planifié une révolution. Et si on regarde les gens qui ont planifié les insurrections des années 30, par exemple Blanqui, par exemple Martin Bernard, il y en a beaucoup. Ils ont resté extrêmement marginaux dans les événements de 1848. C'est pas à eux qu'on a confié le rôle de l'idée de mener les dans la situation créée par le soulèvement.
Alors s'il fallait résumer en un mot ces révolutions de 1848, vous mettez 800 pages pour les définir. Moi je vous demande un mot maintenant, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de ces révolutions qui nous parleraient encore aujourd'hui ?
Oui. C'est une question intéressante. Je crois que quelque chose a changé dans notre relation avec ces événements. Parce que nous sortons de l'époque qu'ils ne connaissaient pas encore. C'est la modernité. Avec modernité, je veux dire l'émergence des grands partis politiques, des grands camps idéologiques, capables de discipliner leurs membres.
De canaliser membre,
les revendications, de les représenter.
Exactement,
de les représenter, mais aussi de canaliser les identités, n'est-ce pas? Et si on parle, par exemple, du Parti conservateur en Angleterre, c'était une chose qui accompagne, qui peut vous accompagner depuis le berceau jusqu'au tombeau, disons. Et plus tard, naturellement, les partis socialistes, communistes, fascistes, etc. Tout cela appartenait à la modernité. Ils ne connaissaient pas et nous ne le connaissons plus. Les partis sont dans un processus de liquéfaction, je dirais. Et pas seulement en France, aussi en France, bon. Mais pas seulement, aussi aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Angleterre, etc. Alors c'est ça, c'est le fait que l'audience nationale de la radio, l'audience de la télévision, vous me permettez de le dire ici, oui. Ces choses, ils perdent leur puissance sur nos esprits. C'est ça, les médias sociaux. À peu près aussi liquéfier ces liens entre les grands centres nationaux de l'information et de culture. Et dans cette situation, nous revenons dans une situation de continuité avec le 19e siècle.
C'est-à-dire qu'on retourne au 19e siècle.
Oui. Il n'y a pas de retour dans l'histoire, il n'y a pas qu'une direction, naturellement.
C'est l'historien qui parle, évidemment.
Exactement.
Mais il y a quand même des similitudes dans la mesure où tout
Absolument.
Ce qui a été construit par la modernité, c'est ce que vous venez de dire, a été déconstruit. Et on en revient à la situation du 19e, en quelque sorte.
Exactement. Il faut reconnaître maintenant, de ce point de vue-là, que le 20e siècle était un siècle extrêmement anormal, extrêmement étrange et bizarre. Et si donc, pour l'Europe, la première moitié extrêmement violente du siècle, et la deuxième extrêmement paisible, pacifiée, tous les deux, c'est pas la normalité, c'est une sorte d'état d'exception qui est maintenant fini, terminé, et on rentre dans une situation de, c'est pas une répétition, mais c'est une situation de continuité avec ce qu'il y avait avant tout cela s'est passé. Et c'est à cause de ça que les affinités deviennent de plus en plus frappantes, je crois.
Suite de ce numéro d'idées, nous sommes toujours en compagnie de Christopher Clark, c'est une chance, et je voudrais pas terminer l'émission sans parler des Somnambules, qui est un livre qui a fait le tour du monde. Vous êtes devenu célèbre avec ce livre, Christopher Clark, parce que vous avez analysé ce qui s'est passé durant l'été 1914, et singulièrement en juillet 1914, après l'attentat de Sarajevo du 28 juin 1914. Et là, vous avez essayé de démonter les mécanismes qui ont conduit la Première Guerre mondiale, des millions de morts, des millions de victimes, une guerre industrielle que l'on sait, une boucherie sans nom. Et vous avez voulu, en tant qu'historien, analyser le comportement de chacun des grands acteurs qui se sont comportés, d'où le titre, comme des somnambules.
Oui, on m'a critiqué à cause de ce titre. On m'a dit non, mais c'était pas des somnambules.
Awake. Et conscient. Ils étaient conscients.
Ils étaient conscients. Ils n'étaient pas. Ils ne dormaient pas. Et les choses comme ça. Je sais naturellement qu'ils n'ont pas dormi. Mais j'ai choisi le mot somnambule parce que ce qui m'intéresse. Au somnambule, c'est sa capacité de faire quelque chose avec un but.
Oui.
Il peut faire une action avec un but, mais il n'est pas conscient du cadre extérieur de son action. Par exemple, je connais un journaliste qui, chaque nuit, il se réveille, il commence à somnambuler. Il croit qu'il faut faire ses valises pour aller en vacances et il commence à rassembler des choses
et les affaires
jusqu'à sa femme dit « Alors, chérie, reviens dans le lit, c'est pas les vacances, il faut dormir. » Alors, ce qui m'intéresse, c'est que les gens de 1814, c'était un peu comme ça. Ils étaient un peu comme ça parce qu'ils étaient intelligents. Ils ont cru on va faire les choses mieux que l'ennemi, mieux que les autres. Mais on a sous-estimé les risques.
Et les acteurs n'ont pas mesuré les conséquences actions.
Exactement. Ouais. Ils étaient conscients du risque d'un cataclysme, d'une catastrophe, mais ils n'ont pas su intégrer ce risque dans leur pensée en tant qu'acteurs politiques.
Oui, parce qu'il y avait une sorte de mécanique des alliances. Des différentes maisons royales entre la Russie et oui. L'Angleterre, par exemple, un mécanisme infernal.
Oui, exactement. Et pour chaque risque, il y avait un espoir dangereux. Par exemple, on a pensé, il y a le risque qu'on va arriver à une guerre stationnaire qui tuera de milliers, de millions de gens, de jeunes hommes. On a su que ça c'était possible, mais on a pensé non, mais ça ne va pas passer. Si on peut prendre l'offensive avant les autres, et si on peut percer le front de l'ennemi, on va évader cette catastrophe, cette conséquence possible. Alors pour chaque risque, il y avait un espoir. Et c'est ça qui était la chose la plus dangereuse dans cette situation-là.
Et ce qui me frappe dans ce livre, comme dans celui qui est consacré à 1848, c'est la part de l'initiative personnelle des acteurs. Vous dites dans Les Somnambules, dans l'histoire que raconte ce livre, l'initiative personnelle est prépondérante, parce qu'on a toujours l'image de la politique comme étant une grande machine qui marcherait toute seule. Non, vous vous rappelez qu'il y a dans cette machine des acteurs, avec
oui,
tout ce que ça suppose.
Absolument. Les acteurs sont absolument fondamentaux, mais le problème pour les contemporains, c'était de savoir quels acteurs étaient les plus décisifs. Et partout, on a posé la question, qui règne, qui décide à Saint-Pétersbourg, qui règne à Berlin, qui décide à Vienne, qui décide à Londres ou à Paris. On ne savait pas parce que c'était des organisations extrêmement floues, avec beaucoup de dynamisme intérieur qui a créé une situation d'illégibilité.
Alors, quel sera votre prochain livre, Christopher Clark? Votre prochaine somme de quelques 800 pages?
Je m'intéresse beaucoup pour le temps après la fin des grandes guerres révolutionnaires et napoléoniques. Et la question qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait si on a mobilisé toute une société, tout un continent? C'était parce qu'il y a, c'était des années, des décennies de guerres européennes. Comment démobiliser les sociétés? Est-ce que c'est possible de démobiliser? Je crois que c'était pas possible. Les gens sont restés mobiles dans leurs esprits. Et je m'intéresse aussi pour la question des traumatismes de cette époque-là. On n'avait pas une langue de trauma, mais je crois qu'il y a des traces de traumatisme partout où on regarde. Et c'est ça qui me fascine.
Ben, on va vous laisser travailler sur ce livre et on a hâte de le lire dès qu'il sera paru. Mais Jean-Marc, Christopher Clark, vous remonter le temps, 1914, après 1848,
oui.
Et là maintenant nous sommes dans les années 1800.
C'est vrai, mais je vais arrêter et puis...
continuez au contraire. Merci Christopher Clark. Votre livre absolument passionnant s'intitule « Le printemps des peuples » avec ce sous-titre « Se battre pour un monde nouveau ». Il est publié chez Flammarion dans la collection « Au fil de l'histoire » comme d'ailleurs le précédent « Les somnambules » l'été 1914 « Comment l'Europe a marché vers la guerre. Merci infiniment d'être venu nous
Merci voir. Pierre-Edouard Deldic.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.